France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, François Chenu, tué parce qu'homosexuel. En septembre 2002 à Reims, ce jeune homme est battu à mort par une bande de trois skinheads gorgés de l'idéologie mortifère d'extrême droite. Ces trois monstres lui ont enlevé la vie parce que François Chenu préférait les garçons. Et qu'il a envie, ce soir-là, de faire une rencontre dans un parc bien connu de la communauté homosexuelle à Reims. Un meurtre homophobe, comme notre époque en connaît, et plus encore, depuis que les applications de rencontres les facilitent. Mais l'histoire de François Chenu n'est pas seulement celle de la haine bête et brutale. C'est aussi une grande histoire d'amour et d'humanité. Celle dont ont fait preuve les parents de la victime face au bourreau de François. Et c'est ainsi que Marie-Cécile et Jean-Paul Chenu, les parents de la victime, sont à l'origine de la première association française de ce qu'on appelle la justice restaurative. Notre invité aujourd'hui, Olivier Méroux, réalisateur d'un documentaire sur cette histoire, titré « Au-delà de la haine ». Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Sylvie Fagnard, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
C'est l'angoisse au ventre quand ce mardi 17 septembre 2002, Isabelle Chelu se réveille. Depuis trois jours, la jeune femme est sans nouvelles de son frère, François. Bon, elle tente de se raisonner, mais un pressentiment l'envahit, suffocant. Vendredi soir, quatre jours plus tôt, ils lui ont envoyé deux SMS. Plutôt léger, François prend du bon temps. Bien. Mais depuis, silence radio. L'ami de François lui aussi s'inquiète. Il a tenté de le joindre plusieurs fois, répondeur, toujours. Quand Isabelle arrive au travail ce matin-là, elle attrape le journal du jour. Et là, l'anxiété se transforme en peur. Et pour cause. En première page du journal L'Ardennais, elle découvre cette info. Le corps d'un jeune homme, la trentaine, a été repêché dans l'étang du parc Léo Lagrange, à Reims. Identité inconnue. Mais Isabelle le sent. C'est peut-être François. Alors, elle appelle la police judiciaire, donne quelques éléments d'information sur son frère. L'officier au bout du fil lui demande de venir. Elle file à Reims. Une heure de route, une heure à angoisser. Et à se reprendre aussi, à espérer. Mais dès son arrivée au SRPJ de Reims, les policiers lui montrent les bagues de son frère, puis une photo de l'homme sorti de l'eau. L'horreur. La suite, elle la raconte à Olivier Méroux dans son documentaire « Au-delà de la haine ».
Puis après, on a été à la morgue. Et je pense que ça m'a fait du bien de le voir comme ça, endormi. Enfin, bien quoi, soulagé. Et puis son corps est parti à Paris le soir même pour l'autopsie. Et moi, il fallait que je prévienne mes parents. Le moment le plus dur de la journée, finalement. J'ai poignardé mes parents en leur annonçant que leur fils aîné était mort.
Dans un cri, Marie-Cécile Chenu, la mère de François et d'Isabelle, demande mais où, quand, comment ? Puis elle s'effondre dans les bras de son mari Jean-Paul. Isabelle ne peut leur transmettre que les quelques éléments délivrés par les policiers. Le corps de François a été tiré de l'eau deux jours plus tôt de l'étang du parc Léo Lagrange. Son visage, particulièrement tuméfié, dessine une mort violente. Alors une enquête est ouverte. Et la famille se remémore les quelques jours qui ont précédé le drame. Le vendredi, Marie-Cécile et Jean-Paul étaient heureux de voir leur grand garçon, l'aîné de leurs quatre enfants, venu leur rendre visite dans leur maison de campagne, dans les Ardennes. François va avoir 30 ans dans quelques jours. Il est le gérant du McDo de Sedan, il est joyeux, entouré d'amis. Ce vendredi-là, il passe au domicile familial, avant le long week-end de trois jours qu'il a prévu à Reims, parce qu'il a quelque chose d'important à dire à ses parents. Marie-Cécile et Jean-Paul Chenu s'en souviennent au micro de Monique Derrien, journaliste à Ici Champagne-Ardenne.
Je pensais qu'il venait nous annoncer son mariage avec
une copine.
Avant, je ne m'étais jamais posé la question. Et là, ça arrive vraiment
Et tu dis ça par rapport à l'homosexualité.
Oui. Oui. Ah oui. Oui, oui. Et
oui, mais en même temps, il y avait plein de signes.
Il y avait des signes qu'on voulait peut-être pas voir, je sais pas.
Non, je crois pas, mais je me dis, on a le droit d'être efféminé sans être étiqueté.
Il nous a quand même un petit peu leurré parce qu'il avait plein de copines, il avait plein de. Alors, ce qui est curieux, c'est que ses frères et sœurs étaient au courant avant nous. Mais bon, ils ont respecté aussi le temps qu'il fallait à François pour nous parler. Et moi, je partais travailler à 13h30, parce que c'était vraiment très concis, très court. Et j'avais dit,
surtout au village,
Niette, voilà. Et puis donc, ne pas mélanger avec son travail. Et puis, on ne s'est pas revus.
Ce jour-là, François quitte ses parents le cœur léger. Et puis il a prévu de passer 3 jours à Reims, 3 jours pour faire la fête et pourquoi pas des rencontres d'un soir. Vendredi, tout est permis. Alors il commence la soirée au Malabar, conseillé par sa sœur Isabelle, et lieu de rencontre bien connu des gays et des lesbiennes de la capitale champenoise. Après un verre ou deux, d'autres jeunes fêtards lui conseillent d'aller faire un tour à Léo Lagrange, le parc situé non loin du stade. Dans le podcast Dominique Derrien, intitulé « François Chenu, un meurtre homophobe », Olivier Nostri, qui était à l'époque le président de Execo, l'association rémoise de défense des droits des personnes LGBTQIA+, explique ce que représentait ce parc pour la communauté homosexuelle de Reims au début des années 2000.
C'était un lieu de rencontre à la fois par les homos, par les bi, en tout cas voilà, des hommes et des femmes qui souhaitaient, pour X raisons, se rencontrer dans un lieu plus discret. Soit parce qu'ils étaient mariés en couple hétéro et que voilà, ils voulaient une aventure d'un soir, soit ils cherchaient l'amour, et j'ai rencontré plein de jeunes hommes jeunes ou moins jeunes qui cherchaient aussi l'amour dans ces
Olivier
lieux,
Nostri ces lieux de l'association Execo.
En 2002, il n'y a pas toutes ces applications, il n'y a pas tout notre smartphone, il n'y a pas toute cette technologie. J'y allais pour faire de la prévention santé, prévention sida, et les mettre aussi parfois en garde, leur demander d'être vigilants et éventuellement de nous informer, nous Execo et la police, s'ils repéraient des voitures suspectes, des groupes suspects. Et malheureusement, il y en avait, puisqu'il y avait déjà eu des agressions avant l'assassinat de François, et puis il y a eu François.
Il fait nuit, François Chenu pénètre dans le parc. Rien ne bouge, il s'adosse à un arbre, allume une cigarette. Quelques minutes plus tard, 3 gars sortent des buissons. Ils s'approchent. « T'es homo ?» demande-t-il à François. Le jeune homme les dévisage, oui, répond-il, avec l'évidence de celui qui sait très bien ce qu'il fait là. Et les coups commencent à pleuvoir. Les 3 hommes ne sont pas à la recherche d'une aventure galante. Non, ils sont là pour faire mal. Ils l'avoueront plus tard. Ils sont sortis à Reims ce soir-là d'abord dans l'intention de se faire un arabe. Mais aucune cible facile n'étant apparue, au fil de leur pérégrination mortifère, ils se sont rabattus sur le parc pour casser du pédé, comme ils disent, en riant, bien gras. François est à demi assommé. Les 3 agresseurs le rouent de coups et le font tomber dans l'étang, puis l'en extirpent. François n'en peut déjà plus, mais il se révolte quand même. « Vous êtes des lâches », leur balance-t-il. Des lâches, oui, ces jeunes qui s'acharnent à 3 sur un type à peine plus âgé qu'eux, mais des lâches qui redoutent de fureur meurtrière quand leur victime leur signifie tout son mépris. L'un d'eux lui piétine le visage à coups de Rangers. Puis les 3 nasillons s'emparent du corps meurtri de François Chenu et le balancent dans le petit lac qui s'étend au milieu du parc. Non sans au préalable lui avoir fait soigneusement les poches. Ils s'éloignent, divaguent encore un peu dans les rues de Reims, tentent de vider le compte de leur victime. Sa carte bancaire, qu'ils viennent de lui voler, est avalée par la machine. Alors les 3 rentrent au bercail. Et pendant ce temps, François Chenu agonise dans le lac du parc Léo Lagrange, où il meurt, noyé. Quelques jours après la découverte de son corps, les enquêteurs tiennent rapidement la piste des tueurs. Le téléphone de François vient d'être réactivé. La suite, c'est Jérôme Noël du SRPJ de Reims qui l'a décrit dans le podcast Dominique Derrien.
Ce portable va nous mener à un utilisateur, ou plutôt je dirais même une utilisatrice assez rapidement. C'est une dame qui habite Bazancourt et qui s'appelle Madame Billette. C'est la bêtise et l'ignorance. qui ont caractérisé l'attitude de cette famille. J'en souris presque encore, mais que quelqu'un remette la carte SIM d'un portable qui a été dérobé dans le sien, c'est une bêtise innommable.
Bêtise innommable, les mots sont posés. Ce que les enquêteurs comprennent immédiatement, en remontant la piste du portable, c'est la haine que suscite l'idéologie d'extrême droite. Et puis une femme a utilisé sans vergogne, et évidemment sans prévenir la police, le téléphone d'un jeune que son fils a sauvagement battu, jusqu'à la mort. Ce fils, Frank Billette, a 16 ans, à peine au moment des faits. Et l'enquête de voisinage plante le décor de cette famille jevouée, et qui est tout ce qui n'est pas blanc ou hétérosexuel. Le père, maigrichon, moustachu et gueulard, est un habitué des conduites en état d'ivresse. Après ses apéros arrosés, il hurle des insanités racistes. Du pavillon familial, les voisins racontent qu'ils entendent régulièrement des chants en hommage au Troisième Reich. À l'intérieur de la maison, la décoration est à l'avenant. Au mur, drapeau nazi et photos des occupants, le bras dressé. Autre élément accablant, dans l'entourage de la famille Billette, il y a aussi un garçon bien connu des services de police, Michael Fréminet. Il fréquente l'une des sœurs Billette. 7 ans plus tôt, il était le principal protagoniste d'un autre meurtre.
France Inter.
Un mort au cours de la manifestation du Front National aujourd'hui à Paris. Un jeune Marocain s'est noyé après avoir été jeté dans la Seine par des skinheads, 3 jeunes gens au crâne rasé. Les meurtriers, selon la police, se sont ensuite perdus dans la foule des 15 000 personnes qui défilaient. Les faits, Dominique André.
D'après les premiers éléments de l'enquête, ce soir, la victime s'appelle Brahim Bouram. C'est un jeune Marocain âgé de 29 ans. Il a donc été pris à partie par des skinheads ce matin sur les quais de la Seine. Les skinheads, qui étaient 3, se trouvaient apparemment dans le cortège de la manifestation du Front National. Ils se sont détachés de cette manifestation pour s'en prendre au jeune homme et c'est lors de cette altercation que le jeune Marocain est tombé dans la Seine avant de couler à pic et de se noyer. Les 3 skinheads, des militants d'extrême droite au crâne rasé, n'ont pas été interpellés. Ce soir, l'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire.
Michael Fréminet est condamné à 8 ans de prison pour avoir jeté Brahim Bouram dans la Seine. Mais à peine sorti, il renoue rapidement avec les accointances de sa jeunesse. C'est dans un camp pour nostalgiques du fascisme, organisé dans des coins perdus des Ardennes, qu'il fait la connaissance de la sœur Billette et de son tout jeune frère, Franck. Dans ses réunions d'adorateurs du Troisième Reich, où on écoute du National Socialist Black Metal, en se gavant de bière et en déversant sa haine des Juifs, des Noirs, des Arabes, des homos et des handicapés, Franck Billette fait d'autres rencontres. Il se lie d'amitié avec Fabien Lavenus, 23 ans. Un gars qui a arrêté l'école en seconde professionnelle, mais qui s'est fait pendant ses quelques mois de lycée de solides convictions racistes. Fabien se met lui aussi en ménage avec l'une des sœurs de Franck, du national-socialisme en famille. Il exprimera d'ailleurs plus tard lui-même, le mouvement skinhead est devenu une deuxième famille. Dans ces mêmes milieux néo-nazis, il sympathise également avec Michael Régnier, 20 ans. Lui aussi a quitté brusquement son BEP électronique pour s'engager dans l'armée. Au régiment de Belfort, où il est affecté, il est bien noté par ses supérieurs. Même si on lit aussi dans son dossier que Michael Régnier fait preuve d'intempérance alcoolique depuis toujours. Ses parents, eux aussi, sont portés sur la bouteille et se sont toujours montrés violents avec lui. Avec menace permanente du père à ses fils, si un PD ici prend la porte tout de suite. Là aussi, la haine en héritage. Franck Billette, Michael Régnier et Fabien Lavenus se sont bien trouvés. Ils ont les mêmes dérives. Maître des raclés à 3 contre 1. Et leurs cibles sont toujours les mêmes, en résonance avec leurs croyances, différentes par leurs origines ou leur sexualité. Depuis 6 mois, depuis que Fabien est parvenu à décrocher son permis, lui et ses complices passent leur week-end à zone et en ville pour dénicher une victime, jusqu'à irréparable.
Thank you.
écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, François Chenu, tué parce qu'homosexuel.
Affaires Sensibles.
À l'aller comme au retour.
Fabrice Drouel.
Tu as traversé ce parc. C'est là qu'attendaient trois jeunes cachés depuis 45 minutes derrière des fourrés pour se faire un homo après avoir cherché à se faire un arabe. C'est toi qu'ils ont trouvé sur leur route. Ça aurait pu être n'importe quelle autre personne.
Michael Régnier, Fabien Lavenus et Franck Billette avouent rapidement le meurtre de François Chenu, confondus qu'ils sont par l'utilisation du téléphone portable de leur victime. Ils sont mis en examen pour assassinat et vol. Plus d'un an plus tard, en avril 2004, les trois jeunes gens sont renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Marne. Pour la famille de François, une nouvelle épreuve se dessine. Ses parents, ses frères, sa sœur vont se retrouver face au bourreau de François. La colère, le dégoût, l'aversion font bouillir leur cœur. Marie-Cécile, la mère, le formule simplement devant la caméra d'Olivier Méroux. Elle dit « Je n'ai aucune envie de les rencontrer ». Comme pour son époux, Jean-Paul, le face-à-face ravive la question que la famille se pose douloureusement depuis la découverte du corps de François dans l'étang du parc Léo Lagrange.
C'était un retournement complet. Enfin, je veux dire, on s'est posé des questions. On se sentait coupable quelque part.
Mais quand même un peu déstabilisé, quoi. Enfin, comme dit Jean-Paul, ça remet plein de choses en question, quoi. Enfin, savoir si on avait bien élevé nos enfants. Enfin, voilà, pourquoi pas. Enfin.
On se sentait coupable quelque part. Je pense que dans ces cas-là, on se sent toujours coupable. La première chose qu'on s'est dit, est-ce qu'on a eu raison d'éduquer notre gamin dans la relation avec les autres, l'amabilité, la tolérance, etc. Parce qu'on se retrouve face à des gens qui... ça les agresse, ça. Donc, on est dans une opposition complètement... C'est irrationnel, mais c'est comme ça, quoi. Hein. Et on s'est posé cette question-là, quoi, en disant, mais est-ce qu'on a eu tort ?
Malgré ces questionnements douloureux, les Chenus continuent de porter haut leurs valeurs. Le respect de la différence, ainsi que la liberté pour tous et toutes de vivre leur vie comme ils l'entendent. Leur vie sexuelle surtout. Cela dit, ils n'acceptent pas que des associations LGBT se portent partie civile à leur côté. Oh, c'est pas parce qu'ils contestent l'homosexualité de leur fils comme mobile du crime, au contraire. Mais parce qu'ils veulent dénoncer la haine de l'autre, quelle qu'en soit la raison. Ce rapport déviant de certains à l'altérité, ils l'ont toujours combattu, quel que soit le domaine. Quelques jours avant le procès, la famille de François s'est réunie avec quelques proches au parc Léo Lagrange, sur le pont qui enjambe l'étang, à la lumière de petites bougies. Jean-Paul, le père, prend la parole, s'adressant à son fils disparu.
La haine de l'autre ne t'a laissé aucune chance. Aujourd'hui, après la colère, le déchirement, nous sommes toujours à vif. Mais nous voudrions que ta mort serve à nous faire tous réfléchir. Tu étais heureux de vivre. Tu avais le contact facile. Ta fibre artistique et ta sensibilité te montraient fragile, mais tu étais solide en conviction et en amitié. Tu ne concevais pas l'intolérance sans pour autant être militant. Tu nous appelles aujourd'hui à nous regarder pour changer notre rapport aux autres. Nous voulons participer à ce combat de tous les jours pour que la tolérance grandisse et avec elle, le respect de la différence sans laquelle la société s'autodétruirait.
Octobre 2004, le procès de Franck Billette, Fabien Lavenus et Michael Régnier s'ouvre devant la cour d'assises pour mineurs de la Marne. Le public et les journalistes sont priés de sortir. La cour décide en effet du huis clos. Franck Billette n'avait pas encore 18 ans au moment des faits. Les trois accusés ont déjà avoué, l'ange du procès n'est pas là. Mais parviennent-ils à reconnaître l'horreur de leurs actes ? Sauront-ils montrer de la compassion pour leurs victimes ? Exprimeront-ils des regrets auprès de la famille de François ? À l'entame des trois jours de procès, ils baissent la tête. Parfois, quand Michael Régnier lève les yeux, rien d'humain n'en ressort. De façon exceptionnelle, bien loin de la procédure pénale habituelle, le président donne la parole, pour commencer, aux parents de François. Puis, c'est le pédigré des accusés, celui d'enfants maltraités, élevés sans amour et dans la détestation des autres. Les jurés découvrent leur engagement, si jeune, dans la mouvance skinhead. Et puis le détail de leur tatouage, gravé dans le dossier d'instruction, des croix celtiques, des têtes de mort, des toiles d'araignée. Le plus jeune Frank comparait avec ses parents, accusé d'avoir détruit des preuves. Des parents inconscients, inconsistants et cautionnant, sans aucun doute, la dérive meurtrière de leur fils, avec pour seule boussole la violence. La tante de l'un des trois accusés raconte ce contexte devant la caméra d'Olivier Méraud.
Et ses parents, vis-à-vis de ce qui lui arrivait
Ils prenaient pas conscience, ses parents, en fait, parce qu'ils étaient alcooliques tous les deux. Donc là, je me suis retrouvée plusieurs fois au commissariat, obligée d'aller chercher leur petit dernier.
Vous êtes la sœur du père ou de la mère?
De la mère.
De la mère, d'accord.
Oui. J'avais toujours pensé qu'un jour ou l'autre, il y aurait une violence de sa part, mais je pensais que c'était envers son père, pas envers une autre personne. Quoi.
D'accord.
Et alors qu'à son père, en fait, il lui en avait même jamais voulu. Là, voilà seulement qu'il prend conscience qu'il a fait des choses pas bien, quoi.
Ouais.
Donc, quand je lui disais qu'il n'avait pas le droit de te taper, il disait s'il me tapait, c'est parce que je faisais des bêtises. Il cherchait pas. Pour lui, c'était toujours lui qui était en tort, c'était pas son père.
Face aux accusés, la famille de François Chenu matérialise la misère sociale et affective dans laquelle ont baigné les trois meurtriers. Ils avaient tout de détraqué, dit Jean-Paul, son père. Et comme le souligne leur avocate, ce sont deux mondes qui se télescopent dans cette cour d'assises. Dans l'un, on transmet l'amour de son prochain, l'empathie pour l'humain. Dans l'autre, rien, si ce n'est la fureur et la nostalgie du fureur. Ce que redoutait douloureusement la mère, Marie-Cécile Prencor. Les parents de François ressentent une forme de compassion, doublée d'une véritable colère chez ces gens engagés. Comment une telle dérive est-elle possible ? Jean-Paul, l'éducateur à la retraite, s'interroge. L'emprise du mouvement skin chez ces trois jeunes hommes était connue de tout leur voisinage. Ils n'avaient pas fait mystère, par exemple, d'un voyage au camp de concentration du Struthof, en Alsace, où ils avaient paradé en exhibant leur tatouage de nostalgique du Troisième Reich. Et personne n'a rien dit. Pourquoi un tel aveuglement? Comme si ces idées n'avaient pas déjà conduit au meurtre et à la violence. Les accusés n'ont pas beaucoup de réponses à apporter à ces questions vertigineuses. Les excuses de l'un ne sont pas empreintes d'une sincérité qui toucherait le cœur de la famille de François, non. Ils ne semblent pas vraiment se sentir coupables de la mort d'un homme. D'où le verdict qui suit les réquisitions du parquet. 15 ans minimum pour Franck, 20 ans pour Michael et Fabien. Un verdict pour affirmer aussi à la société que le crime de haine est sévèrement sanctionné par la justice. Pour la famille de François, la justice passée, vient le temps d'un certain soulagement. Avec un dernier message aux accusés et à la société tout entière, lu par leur avocate sur les marches du palais.
Depuis la mort de notre fils et frère François, nous avons toujours fait confiance en la justice libre de notre pays. La justice est passée, mais nous souhaitons maintenant que chaque citoyen se sente un peu plus concerné par tout ce qui pourrait faire qu'un tel crime ou de telles agressions ne se reproduisent plus. Nous avons dit aux accusés, maintenant condamnés, que nous laissions la porte entrouverte, que nous les créditions de notre confiance en ce qui concerne leur changement et le travail sur eux-mêmes, pour qu'ils finissent par croire aux valeurs républicaines de l'égalité de tous et de la fraternité. Pour l'heure, nous voulons pouvoir commencer à vivre notre deuil dans le silence, en dehors des médias. Merci beaucoup.
Six mois pendant lesquels Marie-Cécile et Jean-Paul Chenu cheminent lentement dans leur deuil, portés l'un et l'autre par leur humanité. Confortés également par la dernière image qu'a laissée leur fils François, et qu'ils ont perçue au cours du procès de ces assassins, celle d'un homme qui proteste jusqu'à son dernier souffle. Fierté. À l'issue du procès, ils avaient laissé la porte entrouverte aux trois bourreaux de leur fils. Maintenant, ils se sentent prêts à l'ouvrir en grand. La justice était nécessaire, bien sûr, même s'ils ont toujours assuré de ne pas rechercher la vengeance. Mais ce procès ne leur a pas permis de dire ce qu'ils voulaient dire à Franck, Michael et Fabien. Ils voudraient initier une sorte de dialogue, oui, un dialogue, pour continuer à comprendre et, dans un sens, à faire vivre la mémoire de leur François. Ensemble, Jean-Paul et Marie-Cécile prennent alors la plume pour s'adresser aux trois assassins. À deux voix, ils lisent cette missive pour le documentaire « Au-delà de la haine » d'Olivier Mérou.
François ne vous connaissait pas. Vous ne le connaissiez pas. Il vous a fait confiance. Il croyait en l'homme, quelle que soit sa couleur, sa religion, ses coutumes. Il ne vous a pas fui. Il vous a dit ce qu'il pensait. Vous l'avez massacré, par peur et par haine. Vous avez fait basculer sa vie et les vôtres. Vous avez nié son humanité. Vous avez trahi votre propre humanité.
Sachez que malgré notre peine, notre souffrance, aucun désir de vengeance ne nous anime. Justice a été rendue, il fallait qu'elle le soit, pour vous rendre votre dignité d'être humain, dignité que vous aviez perdue en tuant François.
François vous a montré le chemin, il a été le courage même, sans répondre à la violence, mais simplement en étant lui-même et en refusant l'humiliation. Il croyait tellement que l'on peut vivre ensemble, en s'acceptant tel que l'on est, en refusant tout ce qui enferme.
Le chemin jusqu'à l'administration pénitentiaire peut être tortueux. Les avocats de la défense ne savent pas où leurs clients ont été incarcérés. Les chenus s'adressent au procureur, qui finit par leur donner le contact et son feu vert. La lettre que vous venez d'entendre part un lundi. À la plus grande surprise des chenus, ils reçoivent une réponse dès le samedi suivant. Leur étonnement grandit quand ils découvrent l'auteur de la réponse. Le chef de la bande, celui sur lequel ils auraient le moins parié, tant il paraissait engoncé dans ses certitudes haineuses. Celui-là leur dit qu'il s'est étonné de ne recevoir aucune haine de leur part. S'ensuit une correspondance chaotique au gré des changements de centre pénitentiaire. Les échanges se font plus rares à mesure que le condamné entame son processus de réinsertion. Oui, il suit une formation, fonde une famille. Les contacts sont aujourd'hui inexistants. Ça n'est pas plus mal, dit Jean-Paul. Ils ont leur vie, on a la nôtre. Avec leur bonté toute simple et leur certitude que chacun peut trouver en lui sa part d'humanité, les chenus ont aussi bouleversé l'histoire judiciaire française, en toute délicatesse, à leur image. Après la sortie du documentaire d'Olivier Mérou, « Au-delà de la haine » en 2005, ils reçoivent de nombreuses lettres, dont certaines venues de détenus avec lesquels ils commencent aussi à correspondre. Puis en 2010, Stéphane Jacquot contacte le couple chenu. À la suite du procès de l'assassin de sa mère adoptive, cet ancien secrétaire général du parti Les Républicains veut promouvoir en France une pratique expérimentée au Canada, notamment. Il s'agit de la justice réparatrice ou restaurative. Quelques mois plus tard, il fonde l'Association nationale de cette justice restaurative et propose aux chenus d'en devenir membre fondateur. En 2014, cette notion entre dans le droit français. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, pour aider les victimes à se reconstruire et responsabiliser les auteurs des faits, les parties d'un procès peuvent se rencontrer et dialoguer. La loi le prévoit désormais, et noir sur blanc, alors que l'administration pénitentiaire y voyait jusque-là, et voyait ça d'un mauvais œil, initiative individuelle. Bon, c'est une petite victoire sur la haine. En revanche, le vœu le plus cher des chenus est resté sans effet. En 2004, au moment du procès, ils avaient appelé chaque citoyen à faire en sorte qu'un tel crime homophobe ne se reproduise plus jamais. Ils n'ont malheureusement pas été entendus. En avril 2023, Mediapart sort un documentaire sur le sujet, « Guet-apens des crimes invisibles », et fait les comptes. Chaque semaine, un homosexuel fait l'objet d'un piège monté par d'autres hommes pour le racketter, le battre, parfois jusqu'à la mort, comme François Chenu.
Alors nous avons fait les comptes. En nous plongeant dans des dossiers judiciaires, en compilant la presse, les archives des associations Stop Homophobie, SOS Homophobie, Accept ST, nous avons recensé au moins 300 victimes de guet-apens depuis 5 ans, plus d'une par semaine. À une très large majorité, les cibles sont des hommes gays ou bisexuels, parfois des personnes trans et des lesbiennes. 300. C'est encore très loin de la réalité. Selon le ministère de l'Intérieur, les plaintes pour violences homophobes ont doublé en 5 ans. Et seule une victime sur 5 porte plainte.
Et le phénomène est massif. La haine des gays s'exprime encore plus facilement aujourd'hui grâce aux applis de rencontres. Mais les parcs publics restent le théâtre d'acharnements homophobes. Ces agressions et ce meurtre ne passent pas encore sous les radars dans leur aspect systémique. Ils restent relatés comme des faits divers, indépendants les uns des autres. Et souvent rapportés sous des titres voyeurs, ou usant de jeux de mots qui se moquent de l'homosexualité des victimes. L'auteur et documentariste Camille Desombres a recensé tous ces meurtres, un à un, à partir d'une veille minutieuse de la presse quotidienne régionale, et s'inspirant du travail de certaines de ses consoeurs journalistes pour sortir les féminicides de la rubrique des chiens écrasés, des faits divers. Il répertorie une vingtaine de meurtres d'hommes homosexuels ou bisexuels commis entre 2016 et aujourd'hui. Des contes macabres, mais surtout non exhaustifs, comme il le souligne lui-même, parce qu'il le réalise seul, bénévolement. Non exhaustif aussi, parce que de nombreux meurtres au mobile homophobe n'apparaissent pas comme tels. Ils sont décrits comme motivés par le vol, par exemple. Pour Camille Desombres, il faut pourtant regarder cette longue litanie de meurtres et d'agressions comme la trace durable de la détestation des homosexuels par une partie de notre société. Qu'elles prennent la forme d'un manifeste néo-nazi ou d'un crime crapuleux.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la douloureuse affaire François Chenu, dont nous parlons avec notre invité, maintes fois cité dans le récit, Olivier Meroux, bonjour.
Bonjour.
Documentariste, réalisateur du film « Au-delà de la haine », consacré au meurtre de François Chenu et dont nous avons diffusé plusieurs extraits. Déjà, pourquoi avez-vous décidé de filmer la famille de François Chenu alors qu'elle affrontait le procès de ses meurtriers? Alors, je précise, pas dans le prétoire d'abord, parce qu'on peut pas, de surcroît, parce que le procès était à huis clos. Bon. Mais les filmer, les faire parler pendant le procès, c'est à la fois audacieux, mais c'est la recherche de la vérité également. Comment ça s'est passé, la prise de contact?
En fait, au départ, j'avais prévu de faire un film sur l'homophobie. Tout ça, c'est des concepts qui étaient nouveaux, quoi. En fin 90, l'homophobie, c'est pas identifié encore comme tel. Il y a quelques intellos, quelques milieux à l'étranger. Et j'avais pensé, c'était avec France 5, Muriel Rosé à l'époque, j'avais pensé comme ça faire des... aller à l'étranger, aux États-Unis, en Iran, mais les trucs le plus... Et je suis tombé sur cet article, un mois après la mort de François Chenu, donc ça n'avait vraiment pas fait l'événement, hein.
Ouais,
un mois après, dans Le Monde, où je me suis dit, mais en fait, tout se passe ici, donc ça serait intéressant de s'y intéresser. Là, je suis allé à Reims, à l'Union, pour prendre des renseignements sur ce parc, l'histoire de François Chenu, et j'avais été saisi parce que, et vraiment quelqu'un d'un brave type, hein, qui était aux archives de l'Union, je dis donc le meurtre de François Chenu, ah ouais, le pédophile. Et là, je me suis dit, waouh, on est loin, mais tout ça,
c'est... On est loin.
On est loin, mais parce que tout a beaucoup bougé en 25 ans, c'est incroyable, on se rend pas compte d'où on vient, en fait. Et j'ai écrit à la famille, j'ai pas écrit à la famille de François, j'ai écrit à l'avocate Agnès Choplet, qui ne m'a pas répondu, et des mois après, j'ai eu une réponse où elle m'indiquait que les parents de François souhaitaient me rencontrer dans son étude, et donc il y a eu cette rencontre. Et à partir de là, le documentaire, en fait, c'est un peu comme vous êtes au bord d'un cours d'eau, vous posez une feuille et puis vous suivez la feuille, vous savez pas où ça va vous mener, en fait. Mmh. Et donc j'ai rencontré Jean-Paul et Marie-Cécile.
Et ça s'est passé comment, là, quand vous les avez rencontrés, les mots que vous vous êtes dit?
C'était chez eux, j'étais assez gêné parce que ça fait vraiment, on a vraiment l'air... de chercher le sensationnalisme,
oui,
et tout.
Peur d'être, voyeur, quoi.
C'est pas agréable. Ensuite, je pense qu'ils ont dû sentir que j'étais un peu homo moi-même. Je sais pas comment ça s'est passé, mais la deuxième fois, on était dans leur jardin, sur une table de jardin, et là, je me suis dit, mais je vais commencer à les enregistrer. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de son pour apprendre pour s'étalonner, en fait, parce que, quand vous arrivez comme ça, c'était un désastre humain, quoi. C'était vraiment un désastre humain. Et votre seule crainte, c'est de pas aggraver...
la peine.
la peine, quoi, de ne pas rajouter. Et ce qui se passe, c'est l'extrême isolement. J'ai le souvenir d'une famille extrêmement isolée. Déjà, le deuil, en général, quel qu'il soit, vous isole beaucoup. Mais est-ce là, avec les candidatons, les gossips, quoi, un crime homophobe, un corps laissé dans un parc, quoi, je pense que c'est juste un fait divers. Et eux ne vivaient pas un fait divers, ils vivaient la perte de leur enfant.
Bien sûr. Et d'ailleurs, les médias ont un rôle à jouer là-dessus. C'est-à-dire employer les mots justes, les mots pour le dire. Le crime passionnel est devenu un féminicide. C'est normal. C'est un fait de société. C'est un fait de civilisation. Le crime homophobe n'est pas un fait divers. Non, hein, ouais, c'est un fait de société, de civilisation. La civilisation, c'est l'état des rapports humains. Hein. Et c'est important, les mots pour le dire.
Et là, j'ai compris après coup que s'il y avait eu tout ce temps avant une réponse et notre rencontre, c'est que je pense que la mort de François, qui les avait véritablement totalement isolés du monde, avec des amis parfois bien intentionné, quoi. Je crois qu'il m'avait raconté ça, qu'il réclame la peine de mort, mais c'était pas leur conviction, quoi.
Alors justement, pardon de vous couper, mais est-ce que vous avez senti assez vite cette volonté de justice dite restaurative de leur part, ou est-ce que c'était un moment où c'était violent encore, le deuil est violent, on n'a pas la force d'essayer de...
J'ai senti, et ce qui a été exceptionnel, c'est que je l'ai senti à la fois chez les parents, mais chez les enfants aussi, qu'ils avaient perdu un fils, un frère, et quand on perd un fils, on perd pas... Un de ses quatre enfants, on perd pas 25% de ses enfants. On perd son enfant, quoi, c'est total. Mais j'ai senti qu'il y a très vite, et sans doute Jean-Paul était l'instigateur de ça au début, qu'ils avaient perdu un fils, leur fils, mais ils ne voulaient pas perdre leur valeur.
Ouais.
Et surtout face à ces trois-là et à cette haine. Et donc après, j'ai eu le sentiment d'assister à ce travail sans cesse du passage des tripes qui demandent la vengeance, j'imagine.
À la raison.
Oui, au cerveau. Non, on a des valeurs et les valeurs doivent être plus fortes que tout ça. Et c'est ce va-et-vient comme ça, ce travail incroyable. Et partagé. Et après coup, je me suis dit, mais là, je le rencontre, François, en fait. S'il est entouré de gens aussi exceptionnels, c'est qu'il était exceptionnel. J'avais pas besoin de le voir en photo, il était en photo d'ailleurs, mais en fait, on le connaissait franchement, en François, en écoutant ses proches.
Quel contraste entre les deux familles, quand même.
C'était.
Faire plus aux antipodes que ces deux familles-là.
Mais votre récit est hyper juste. Parce que tout ça vient d'un désastre social aussi, en
Bien
fait.
Sûr.
Et je m'étais un peu plus intéressé à la famille de Michael Araignée. J'avais rencontré sa tante qu'on a entendue, qui était une femme remarquable. Et je lui avais demandé de me donner des photos de Michael Araignée petit. Et effectivement, c'était un enfant avec des cernes. Ça me semblait d'évidence un enfant maltraité. Et je lui avais demandé aussi de me raconter l'histoire de sa famille, et je me souviens que parce que j'aimais bien faire ça sur trois générations pour comprendre un déclassement social. Ça vient pas de nulle part.
C'est un processus, bien sûr.
Un processus. Et je crois qu'elle m'avait raconté que ses grands-parents, donc la première génération, si on en prend trois, tenaient une boulangerie, que la mère est tombée malade, que le père n'a pas été en mesure de garder ses six enfants, lui-même devait avoir des problèmes, donc tous les enfants sont placés, les parents, et ensuite, la génération suivante, il y a rien. Donc, sur un territoire, ou alors pour les billettes, c'était à Bazancourt. Bazancourt, c'est la fin de la Champagne, juste avant les Ardennes. Mais sur des territoires qui ont été souvent, je veux pas mettre Bazancourt en exergue, mais délaissés par les disparitions d'associations, et ça s'aggrave chaque
sûr.
Jour. De soutien, et on s'apercevait déjà à l'époque que la voiture balai, à l'époque c'était Maigret, qu'il y avait une voiture balai comme ça, qui ramassait tous les déclassés ou en voie de déclassement, jusqu'à créer cette violence à la fin. Donc, faut être très vigilant, en fait, de tout ce qu'on est en train de déconstruire, parce que il y a des voitures balais, et c'est dangereux.
Qu'est-ce que vous appelez les voitures balais? Précisément,
ce sont des ramasseurs, maigrés, ramassés, quoi. Il y en a d'autres aujourd'hui. Ils ramassent tous les fracassés de la vie, qui se trouvent un rôle, qui se sentent supérieurs, parce que d'un seul coup, ils sont supérieurs à l'homo, ou à l'arabe, ou à la femme, ou à... Ils ont un statut social, il y a un effet de groupe, qui les renforce. Il y a un effet de meute et ça crée ce qu'historiquement on voit souvent. Après, ça crée des groupes très très dangereux, quoi.
Et ce fait social qui fait que ces gamins qui sont devenus des meurtriers, mais de façon, entre guillemets, naturelle, dès lors que toute leur enfance, ils ont entendu des chants à la gloire des nazis, pour eux c'est naturel, quoi. Et ce fait social, ce déclassement social, vous pensez que c'était une motivation pour les parents de François Chenu d'enclencher cette justice restaurative, cette compréhension de la fracture sociale?
Mais le père de François, quand même, il est éducateur social à la base.
Oui,
quoi.
Ça aide. C'est vrai.
Je crois même qu'il avait eu des doutes sur est-ce que, éventuellement, c'est un des enfants dont je me suis occupé un jour qui peut être mêlé à ça, quoi. Après une vie de travail, il arrivait à la retraite, c'était un constat d'échec total, en fait, je pense. Hein. Je ne veux pas me mettre à sa place, mais je pense que c'était ça. Mais en même temps, je vous dis tout ça, mais il ne faut pas oublier la solitude de François le soir dans ce parc, avec trois hommes qui viennent dessus, qui l'insultent, qui le tabassent. Qui finissent par le jeter à l'eau et où il va mourir.
Pas oublier le cauchemar, quoi.
Exactement. Donc c'est.
On l'a pas oublié,
c'est là où faut prendre du recul. Maintenant, ouais. C'est en ça qu'on le sentait très bien dans le récit. Il faut vraiment.
Il est émouvant, même à
c'est
dire.
Beaucoup
hein.
de choses. Hein.
Oui.
France Inter. Affaires sensibles.
Olivier Mérou, on parlait de Maigret tout à l'heure, c'était Bruno Maigret, hein, parce qu'on a retrouvé chez certains des accusés des tracts en faveur de cet homme politique. C'était une époque aussi, hein, je ne sais pas si on aborderait, d'ailleurs on n'aborde pas aujourd'hui un drame comme celui-là, comme on l'aurait abordé, comme on l'a abordé en 90, c'est clair. Leur avocate, Agnès Choplet, a évidemment un rôle important dans cette histoire. Comment vous la qualifieriez?
Oh, une femme incroyable. Alors, les Choplet... Et Bloco, c'était le frère et la sœur, ils avaient une étude, d'ailleurs Pierre Bloco, je crois, est encore en activité, et donc à Charleville, et elle connaissait les Chenus, je crois me souvenir, par les mouvements associatifs, un peu catho de gauche, ou dans mon souvenir c'était ça. Et un jour, je crois qu'elle m'a raconté qu'elle reçoit un coup de fil de Marie-Cécile, qui lui dit que c'est très important, qu'il faut qu'elle lui parle, et dans la voix elle comprend qu'effectivement c'est important. Et là, elle tombe des nues, quoi. Mais quelque part, c'est comme si le crime homophobe tombait, alors que même l'homophobie était assez nouvelle, tombait sur Charleville, quoi. C'est-à-dire que tout était découverte. L'homosexualité, bon, François avait fait son coming out, mais c'était tout récent encore, il avait 30 ans. Et l'homophobie, tout ça, c'était des concepts, quoi. L'homophobie, c'était certainement très nouveau. Et voilà, elle les a accompagnés comme une amie accompagne. Et elle était sur la même longueur d'onde que les Chenus, en fait. Je pense qu'elle-même, parfois, lui est arrivé d'être touchée par certains récits concernant la vie des trois condamnés.
D'ailleurs, c'est la famille des meurtriers. Vous vouliez la filmer aussi, vous avez changé d'avis, c'est ça?
J'ai réussi à filmer la famille Billette.
Ah quand même, ouais, d'accord.
Monsieur Billette. Alors,
qu'est-ce qu'il vous a dit?
Alors je l'ai rencontré pareil chez l'avocat. Donc c'était Maître Guyot, et c'était l'avocat de Franck Billette, qui était mineur au moment des faits. Et là franchement, pour la première fois, je crois que j'ai vraiment eu peur physiquement dans ma vie. Parce que je me faisais l'image donc du meurtre de François, mais aussi de Brahim Bouharam.
Oui, jeté dans la scène.
Jeté dans la scène par le conjoint d'une des filles. Et je me suis dit, mais sur qui je vais tomber, quoi. Ouais. Et je me souviens, c'est vraiment une image sonore que j'ai dans la... Je suis assis avec l'avocat, on l'entend. Et il y a un long couloir, il arrive dans le long couloir, mais en fait, j'entends pas une marche, j'entends des bruits de canne. Tic, 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 tic. Et ça dure, et ça dure, et finalement... Il arrive dans la pièce, dans l'étude, avec sa femme. Et là, c'est un homme fracassé, quoi. Fracassé par l'alcool, en surexcitation. Il nous explique qu'il boit 20 litres de café par jour, qu'il dort plus.
Il a su analyser ce qui s'est passé ou...
Non, son seul truc, c'était « c'est pas moi ».
C'est pas moi, c'est
ils ont fait une connerie, je leur ai dit. Hein. Non, c'était, il n'y avait pas de père, en fait. Il n'y avait pas de père. Non, c'était... Et puis, effectivement, il avait travaillé toute sa vie dans les, ou une partie de sa vie dans les cimetières. Et lui s'occupait du cimetière allemand. et il m'expliquait que quand même le gazon dans le cimetière allemand c'était autre chose. Bon, les Canadiens ça allait encore, mais tous les autres gazons c'était nul, mais le cimetière allemand c'était comme le mieux pour le gazon. Quoi, des trucs, ça sortait par bribes comme ça, c'était... Ouais. Mais ils auraient pu envoyer leur gamin à l'abattoir s'ils pouvaient s'en sortir, hein. C'était assez tragique. Mais du coup, c'est sûr qu'à côté, les chenus étaient incroyables. Et je tiens aussi à signaler que les avocats des trois garçons, alors il y a eu Maître Guillot et Mourad Ben Koussa, avec qui j'étais vraiment proche, et Maître Marteau, ont été prodigieux dans la façon d'accompagner les clients. Ils n'ont jamais... Parce qu'en fait, la justice, c'est... Dans la défense, on ne justifie pas un crime. Hein. Le crime, il a eu lieu. C'est une rupture de sens pour toute la société. Mmh. Et ils ont fait ce travail de recréer du sens là où il n'y en avait plus, en fait. Et en ça, ils ont fait écho un peu au travail de la famille Chenu et Daniel Choplet, leur avocate.
Vous les voyez toujours ? Ça vous arrive ?
Ben pas trop, parce que ça fait 25 ans et je ne les vois pas assez, en fait. Il faudrait que je les vois. Mais ils sont inscrits dans ce que je fais.
Bien sûr, c'est un reportage pas comme les autres pour vous. Il a laissé une trace, j'imagine. Hein.
Oui. Ouais.
Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir témoigné, Olivier Mérou. Je rappelle le titre de votre documentaire sur cette histoire horrible, « Au-delà de la haine ». Bah oui, le titre porte bien le nom du drame. Hein. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le meurtre homophobe de François Chenu. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alix Barrois.